La deuxième hypothèse, qui est la mienne, qui est beaucoup plus difficile à accepter et qui, d'une certaine manière, est quelque peu anomique, en tout cas discutable, c'est que nous sommes en train de vivre, et ce serait cela une des spécificités de la postmodernité, l'ébranlement progressif de la croyance en une prédominance de la raison. Alors, je dis bien, moi, ébranlement de la, non pas de la raison, mais de la raison souveraine. Voilà ma deuxième hypothèse.
La seconda ipotesi che andrò ad illustrare, che è più difficile da accettare dell'altra e che è una ipotesi, diremmo, potremmo dire anomica, in tutti i casi discutibile, è che stiamo vivendo nella postmodernità l'erosione della predominanza della ragione sovrana. Non voglio dire della ragione, ma della ragione sovrana.
J'ai bien dit, hein, la croyance de la prédominance.
La credenza nel predominio della ragione sovrana.
C'est ce qui a, dans le fond, constitué les grands systèmes théoriques tout au long du 19e et du 18e siècle. Et là, de ce point de vue, d'ailleurs, sans discrimination politique, gauche et droite confondues. Donc il faut bien se rendre compte, je sais bien que c'est difficile à dire, mais c'est bien, comment vous dites en italien, cet ébranlement
Sconquasso,
sì,
fondamentalmente, un termine.
Erosione, sconquasso.
Distruzione.
Sì.
C'est pas distruzione, ébranlement, c'est dans le fond le fait que cette forteresse
cède.
N'est plus une forteresse,
esatto, hein,
que les murs en quelque sorte s'ébranlent. Voilà.
Esatto,
sì, in qualche modo crollo, una fortezza che crolla, crollo, sì, un crollo, sì, sì. Sta dicendo quindi questa credenza nella predominanza della ragione sovrana che è stata, diciamo, che ha fondato sia nel XVIII-XIX secolo, sia a destra che a sinistra, tutte le costruzioni teoriche del periodo e che oggi è difficile da dire, da far accettare, ma che oggi sta perdendo, sta proprio cadendo. Sì. Mm-hmm.
Bon, alors, c'est à partir de là que cette notion un peu anachronique, la notion de résidu, je ne sais pas comment vous le dites en
résidu,
italien,
oui.
Voilà,
résidu.
Ce terme de résidu, c'est un peu curieux, c'est même un peu désuet. Bon, c'est une notion intéressante. Ma métaphore, je vous propose cette idée-là, un peu à la manière stendhalienne, une cristallisation. Et quand Stendhal parle de l'amour, il montre que dans le fond, c'est parce qu'il y a, alors l'expression française, c'est il y a une omère. L'omère, c'est la matrice. Il y a une omère, et puis tout d'un coup, cela se cristallise. Et donc, il y a amour. Ce qui est de l'ordre, dans le fond, des affects, des sentiments, des passions, etc., ça va devenir l'amour. Et je dirais que le résidu, ce serait cela, une cristallisation de quelque chose qui, dans la vie sociale, est diffuse, se capillarise. On ne sait pas très bien exactement ce que c'est, le retour de choses anciennes. Voilà, cristallisation. Voilà ma proposition ici.
Ok. Quindi questa nozione, diremmo, anacronistica di residuo, la nozione paretiana di residuo, un po', dice il professor Maffetturi, un po' desueta, potremmo associarla a una metafora di Stendhal, quando Stendhal parla dell'amore. Si potrebbe dire che si tratta di una cristallizzazione. In particolare utilizza un termine legato alla metafora di Stendhal sull'amore di Omer, matrice. Quindi qualche cosa che è dell'ordine degli affetti, dei sentimenti, delle passioni che si cristallizzano. In questo senso si può parlare dei residui per la vita sociale. tutta una serie di appunto sentimenti, passioni che in modo capillare a un certo punto si cristallizzano.
E dans le fond, je ne sais pas comment cela vous le traduisez et vous le vivez en Italie, mais je considère qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est la publicité, le marketing, l'économie, le politique, si on n'a pas à l'esprit cette cristallisation. C'est-à-dire qu'au-delà de la simple rationalisation, il suffit de voir ce qu'est la production mythologique, la production publicitaire, pour voir comme étant en quelque sorte un raccourci de ces vieux archétypes, donc, pour moi, de ces résidus. Hein, donc c'est quelque chose qui est, si je le dis en termes méthodologiques, un levier méthodologique pour un chercheur pour bien analyser ces éléments de la vie actuelle. Hein, j'ai bien dit, tous ces éléments-là, encore une fois, du marketing au management. On ne peut bien le comprendre que si on a ce retour en arrière, qui est dans le fond le résidu. Voilà mon hypothèse.
Quindi la mia ipotesi, non so come voi insomma, lo interpretate in Italia, qui in Italia, ma mi riferisco alla pubblicità, al marketing, all'economia, alla politica. Si tratta di vere e proprie cristallizzazioni, non delle semplici razionalizzazioni. Tutta la produzione mitologica, quindi appunto i miti, si riferiscono a vecchi archetipi e quindi a questo processo di cristallizzazione che possiamo appunto parlare di dei residui paletiani. Da un punto di vista metodologico diventa proprio uno strumento, uno strumento metodologico di analisi per analizzare appunto la vita attuale, dal marketing alla pubblicità, al management, una sorta di ritorno di ritorno indietro agli archetipi. Ecco, questa è la mia proposta metodologica, la mia ipotesi.
On est là dans cette belle expression que donne Georg Simmel quand il dit « il faut toujours savoir » d'une manière un peu romantique, bien sûr, un peu saisir quel est le roi clandestin d'une époque. Il y a apparemment quelque chose qui est là dominant, mais notre travail à nous, hein, c'est un peu de saisir les sous-sols de la vie. La nappe phréatique. Et dans le fond, cette idée de roi clandestin, voilà ce que j'essaie de dire au travers du résidu, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, l'intelligentsia journalistique, politique, universitaire, continue de rester sur des schémas qui sont des schémas très rationalistes, alors qu'il y a nécessité pour le peuple et pour nous, qui sommes censés l'interpréter, saisir encore une fois ce roi clandestin. Le résidu, c'est ça.
Dunque, per citare Simmel, è un'espressione che ho utilizzato in modo un po' romantico, bisogna sempre cercare di sapere qual è il re clandestino di un'epoca. Quindi noi abbiamo sì un pensiero dominante che interpreta, che cerca di interpretare un'epoca, ma in realtà dobbiamo cercare qual è il sottosuolo della vita quotidiana. Ecco, in questo senso parliamo proprio di re clandestino alla Simmel. È vero che l'intelligenza sia quella politica, quella universitaria, quella giornalistica, utilizza degli schemi razionalisti. Ma per il popolo e per noi che dobbiamo cercare di comprendere cosa avviene nella vita sociale, dobbiamo avventurarci nello spazio, diciamo, nella comprensione di questo re clandestino. E i residui sono proprio questo, i residui di Paleo.
Allora, voilà ce che per moi... l'inversion de polarité hein, qui est en jeu actuellement. Merleau-Ponty parlait à cet égard d'un chiasme à certains moments, hein, chaque 3-4 siècles. il y a un chiasme qui s'opère dans les époques, et dit d'une manière un peu brutale, je dirais que au-delà de ce qui est une marxisation des esprits, c'est-à-dire ce qui va faire répandre la vie de la fameuse infrastructure économique, avec des superstructures. Donc au-delà de cette marxisation des esprits, qui est en, dans le fond un matérialisme vulgaire, pour le dire simplement, l'économie, le politique, le social sont, de mon point de vue, tributaires des archétypes. Et donc, si on le traduit dans un schéma parétien, bon, sont tributaires des résidus, hein, de ce qui reste. Même si, bien sûr, cela peut nous choquer, bien sûr, même si cela peut apparemment renvoyer à une vision réactionnaire. Ce n'est pas réactionnaire, ce n'est pas conservateur. C'est revenir aux sources, en quelque sorte.
Si tratta di una vera e propria inversione di polarità. Merleau-Ponty parlava in questo senso di chiasmo. Diceva ogni 3-4 secoli avvengono questi passaggi, questi chiasmi, sì, italiano chiasmi, di passaggio d'epoca. E quindi al di là delle sovrastrutture economiche, lui parla proprio di marxizzazione delle menti. Al di là quindi di tutta questa costruzione ci sono poi, dice Maffesoli, gli archetipi. E noi abbiamo un tributo nei confronti di questo aspetto della vita sociale che abbiamo trascurato. In questo senso i residui di Pareto possono essere utili, anche se ciò può scioccare, può sembrare, dice, ma non lo è, una visione reazionaria. No, in realtà è ritornare alla sorgente, ecco, del sociale.
Alors pour ça, il y a une subtilité dans les mots. Nous sommes habitués toujours, et je suppose qu'en italien vous avez cette même distinction, entre la réalité et le réel. La réalité, ça va être un principe de réalité. Par exemple, un principe de réalité économique, un principe de réalité politique, etc. Il peut y avoir des rêves, on va vous dire non, principe de réalité. Moi je dis, ce principe de réalité est quelque peu rachitique. Alors que le réel est gros, en quelque sorte, des rêves, des fantasmes, des idées, des fantasmagories. Et il me semble qu'il y a actuellement, chez les jeunes générations, un refus de la réalité et une appétence pour le réel. Et dans le fond, ce réel, il est archétypal. Ce réel, il est vraiment, peut-être, défini théoriquement par cette idée de résidu. Hein, il faut bien faire attention à cette différence entre la réalité, je dirais une réalité bourgeoisiste, et le réel, qui lui, encore une fois, je dis ce mot, hein, est gros des fantasmes, gros des rêves, gros du festif sous ses diverses modulations, et dans le fond, c'est cela qu'il convient de prendre en compte, en quelque sorte.
C'è una sottigliezza nelle parole che credo voi abbiate anche in italiano, sì, in effetti ce l'abbiamo, la distinzione fra realtà e reale. Dice, con realtà ci riferiamo per esempio all'espressione di principio di realtà, economica, politica, eccetera, eccetera. Ecco, il reale, invece, è pieno, gravido.
Gravido.
Di sogni, di fantasmagorie, di idee, e tutto questo, dice, è proprio appunto di natura archetipica. C'è un rifiuto, secondo Maffesoli oggi, di questa realtà, e invece un grande desiderio proprio del reale. Quindi attenzione a questa...
Soprattutto per i giovani.
Soprattutto
per
i giovani.
Le jeunes générations.
Soprattutto per le giovani generazioni. Parla di realtà in termini, diciamo, a un certo punto proprio di borghese,
sì,
che è rachitica, sì, e poi una realtà borghese, ecco.
Non, j'ai pas dit borghese, j'ai dit bourgeoisisme.
Bourgeoisisme.
Borghésisme, c'est un néologisme parce que dans le bourgeoisisme, il y a aussi bien le capitalisme que le socialisme.
Okay. Nel borghesismo come neologismo, dice, c'è insieme sia il capitalismo che il socialismo.
Ou on va dire le libéralisme ou le socialisme. C'est-à-dire ce qui va reposer sur le principe de réalité économique. C'est
quello
ça le bourgeoisisme.
Quello che si fonda sul principio della realtà, di realtà economica.
Voilà. Voilà, et donc, d'ailleurs, au travers de deux termes, hein, c'est à nous d'arriver à trouver les mots, hein, encore une fois, qui soient contemporainement les plus pertinents. Hein, pas encore des concepts, des mots pertinents. Moi, j'avais proposé à l'époque de parler de ce terme qui était le sociétal, qui n'est pas simplement le social. Le social, dans le cadre du contrat social à la manière de Rousseau, c'est un être ensemble rationnel. Le sociétal, voilà, le sociétal met en jeu d'autres éléments beaucoup plus profonds, beaucoup plus inconscients en quelque sorte, et il me paraît que cette notion de résidu serait justement une manière pertinente pour traduire ce sociétal. Encore une fois, pas simplement le social, hein, le sociétal dans cette espèce de dimension beaucoup plus ouverte.
Sta a noi di trovare le parole più pertinenti, per cui non concetti, dice, ma parole. E a suo tempo, insomma, aveva proposto il termine di societale, che non è semplicemente il sociale, alla maniera di Rousseau, che nel contratto sociale parlava di un sociale, diciamo, di tipo razionale. Ecco, no, il societale è qualcosa di più profondo, più inconscio, e in effetti l'idea di residuo sembra una parola pertinente per poter parlare del societale.
J'ai déjà rapproché cela, et je pense que le rapprochement n'est pas simplement superficiel entre la pensée de Pareto et des quantités d'intuition de Simmel. Et je me permettrai ici le rapprochement entre cette notion de résidu et ce qui est la notion de forme chez Simmel. Hein, ce que, là encore, il y a une petite nuance importante. Hein, la formale sociologie n'est pas une simple sociologie formelle. C'est une sociologie formale, c'est-à-dire, dans le sens fort du terme, ce qui fait forme. La forme, c'est un creuset, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire un creuset là où s'élabore l'être ensemble. Le mot creuset, j'aimerais bien qu'on traduise cette idée, le creuset, vous voyez, c'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui sert de moule. Mm-hmm. Et donc, il y a dans la forme, et vous comprenez que c'est cela, le résidu, fondamentalement, une manière, encore une fois, qui est, Simmel dit, sociologie als Möglichkeit, c'est-à-dire des possibles. La forme est ce à partir de quoi, une matrice, à partir de quoi naît véritablement l'être ensemble. Vous voyez, donc c'est ça qui était important pour bien saisir la fécondité de cette forme. En tant que, gardons ce mot très simple, hein, creuser. C'est-à-dire une forme. Mais l'expression la plus simple, c'est la matrice. Où les réquisites sont là pour que naisse la vie, fondamentalement. Et donc il y a dans ce résidu cette dimension vitaliste. Voilà, vous arriverez à traduire tout ça.
On va essayer. Faccio un accostamento non solo superficiale tra Simmel e Pareto, quindi tra la nozione di residuo in Pareto e la nozione di forma in Simmel. Qui utilizza una sfumatura della lingua francese che in italiano non c'è, tra formal e formel. In effetti in italiano noi tradurremo sempre formale, forse si può usare, altrove abbiamo usato formista per, ecco, per tradurre la seconda sfumatura, cioè quella simmeliana. E ciò che fa forma, là dove prende forma il sociale. e utilizza un'espressione, un termine francese creusé che abbiamo tradotto crogiolo, crogiolo.
Ah,
oui. E stampo.
E stampo, oui. Sì.
Entrambe le...
E quindi in qualche modo, e qui utilizza l'espressione tedesca di Simmel, la sociologia del possibile, la matrice, ecco, più volte sottolinea il termine di matrice, là dove nasce l'essere insieme. Dell'ordine della fecondità, dove nasce la vita, e quindi è una visione appunto vitalista.
Et alors c'est là que du coup on pourrait donner un vrai sens à ce mot qui est une sorte de monstruosité, qui est le mot sociologie. Parce que c'est une monstruosité. Hein, bon. Pourquoi c'est une monstruosité? C'est parce qu'à la fois, en latin, socius, c'est le droit, ce qui va gérer quelque chose, et le logos grec, c'est la pensée, la rêverie. On n'a pas fait attention à cette monstruosité quand Auguste Comte le propose. Hein. Mais dans le fond, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir une liaison entre le socius et le logos. En d'autres termes, entre le droit et le rêve. Si je le dis dans mes termes qui me sont propres, entre le pouvoir et la puissance. Voilà, moi, la seule chose qui restera de mon travail, c'est ça. Et donc, cette idée de résidu, d'une certaine manière, c'est une manière de traduire ce rapport entre le pouvoir économique, politique, etc., etc., bon, qui existe, mais qui ne peut exister que parce qu'il y a la puissance, il y a le logos. Il y a le rêve, la rêverie, la pensée, etc. Vous voyez ? Et c'est, dans le fond, si je le dis à travers d'un terme propre à Edgar Morin, c'est une dialogie qui va s'établir entre ces deux éléments. Et c'est en ce sens que je considère que ce rapport entre la dérivation, le résidu et la dérivation est particulièrement pertinent pour saisir ce qui est en jeu contemporainement.
E così siamo arrivati a trovare un senso a questa parola in qualche modo mostruosa, sociologia, che da un punto di vista etimologico, sociologia, mette insieme due idee, quella da una parte che ha a che fare con il droit, il diritto, ciò che regola, proprio ciò che regola, ciò che dà norme, ecco, che controlla, dice Maffesoli, e logos, quindi ciò che è dell'ordine, qui dice delle idee, della rêverie. Rêverie è un termine meraviglioso che non vorrei tradurre. Certo, rêve è sogno, immaginate quindi rêverie come quello stato di fantasticheria. Ecco, noi non ci abbiamo pensato quando Kant ha utilizzato per primo questo termine, quello di sociologia, ma in realtà dava proprio vita a una mostruosità. Quindi faceva un ponte, un legame tra diritto e sogno e, per utilizzare dei termini miei, dice Maffesoli, tra potere e potenza. Poi dice, quello che resterà del mio pensiero è solo questo. Il residuo varetiano può proprio essere utilizzato per capire il legame potere-potenza. Perché ci sia potere ci deve essere potenza. E per utilizzare ancora un termine, questa volta di Morin, c'è tra i due elementi, tra residui e derivazioni, e potere, potenza, c'è una dialogica. Ecco.
Et c'est ce qui permet de comprendre, et il faut accepter, dans le fond, cette idée fort simple, qu'il n'y a pas une vérité, mais qu'il y a, alors je vais dire l'expression un peu philosophique, qu'il y a une constellation aletéologique. C'est-à-dire, la vérité, c'est une. La constellation aletéologique, c'est-à-dire une constellation de vérités plurielles. Et que donc, on ne peut plus fonctionner sur une vérité éternelle, mais au contraire, voir comment vont s'élaborer, en quelque sorte, momentanément, épocalement, hein, des vérités épocales qui vont être s'exprimer, s'inscrire dans un moment donné. Voilà un peu ce rapport dialogique qui me paraît important d'avoir à l'esprit, et c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'ébranlement, de ce qui pourrait être, en quelque sorte, la raison souveraine qui a été au fondement des grands systèmes modernes. Voilà. C'est ça qui est en train de s'effondrer contemporainement.
L'idea semplice, sto cercando di trasmettere, è che non esiste un'unica verità. E propongo di parlare di costellazione aleteiologica, dove c'è l'idea di più verità, di verità plurali quindi si manifestano, non una verità eterna, ma delle verità che si esprimono epocalmente, cioè sono legate alle epoche, in più momenti, più verità. E quindi il rapporto dialogico in questo senso. E quindi in questo senso il crollo, no, del brandement della ragione moderna.
Ce qui veut dire, si vous voulez, que pour bien comprendre une époque, ben il faut revenir aux sources. Hein. La fameuse idée en allemand, Schritt zurück, de la phénoménologie. Hein, revenir à ce pas en amont, pas en arrière. Hein, petite nuance. Et qu'on ne peut bien saisir ce qu'est un moment, une vérité épocale, que si on saisit ce que j'ai appelé tout à l'heure le creuset, la matrice. Vous voyez, pour le dire en d'autres termes, on voit bien que l'époque moderne fut une époque qui était toujours projective, qui était toujours, si on le dit en des termes un peu imagés, qui était en quelque sorte spermatique. Et que ce qui est en gestation, c'est que, dans le fond, le sens revient à la matrice. Pour moi, ce que j'appelle l'invagination du sens. Hein, bon, alors je sais bien que ce n'est pas très heureux comme formule, mais d'une certaine manière, c'est quelque chose qui peut nous rendre attentifs à ce substrat, hein, creusé, etc. etc. Hein. Et que c'est si on comprend cela qu'on peut saisir le rapport comme ça, hein, de va-et-vient, bien évidemment, qui va exister entre le résidu qui est matriciel et la dérivation qui est spermatique, qui est projectif.
Ecco, per comprendere un'epoca bisogna quindi rivenire alla sorgente. Qui utilizza un'espressione della fenomenologia, della filologia fenomenologica, e pone l'attenzione al fatto che non è un tornare indietro, ma un tornare alla sorgente, alla source. E quindi di nuovo crogiolo, matrice. Ecco, mentre l'epoca moderna è stata, fu, dice proprio, progettiva, non è traducibile, proiettiva, ecco forse in italiano, e quindi utilizza un altro termine, spermatica. Oggi la gestazione del senso che dobbiamo comprendere e che quindi in qualche modo è proprio quella che ritorna alla matrice di questo senso, del senso, e utilizza un'espressione proprio, diciamo, contrapposta a quella di spermatica, che è la invaginazione del senso. Rivenire quindi a un substrato per comprendere il va e vieni che c'è fra le due polarità. Quindi il residuo è di ordine matriciale, la derivazione è di ordine di tipo spermatico.
E per bien saisir. Alors, je ne sais pas comment il faut dire, hein, ce processus, ce va-et-vient, etc. Il faut revenir à ce terme qu'on emploie depuis tout à l'heure et qui, dans toutes nos langues néo-romanes, est un terme très curieux, qui est le mot « sens ». En français, en italien, en espagnol, en portugais, le mot « sens » signifie à la fois la finalité et la signification. Et n'a de sens que ce qui a un sens, hein, ce qui va quelque part. Et donc, il faut que ça se projette. Sinon, stricto sensu, c'est insensé. Voilà ce qu'était la grande catégorie moderne. Le sens a du sens. Mon hypothèse, donc c'est la flèche du temps. Moi, mon hypothèse, qu'il peut y avoir du sens qui n'est pas un sens. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas, qui n'aille pas quelque part. Et dans le fond, on a là exactement ce va-et-vient, encore une fois, hein, entre résidus et dérivation, c'est-à-dire quelque chose qui nécessite toujours le retour à la source. Retour quelque chose qui fonde, hein, et qui ressource. Et vous comprenez pourquoi, à mon sens, actuellement, nombre de pratiques se situent non plus dans la dichotomie du sens ayant un sens, mais au contraire, qui revient à la matrice. Quelque chose qu'on pourrait appeler un matérialisme mystique ou un corporisme spirituel, hein, si on joue de ces oxymores, c'est-à-dire qui montre bien ce va-et-vient constant qui sont de l'ordre de cette constellation à l'étéologique.
Questo processo di vari vieni può essere compreso anche soffermandoci sulla parola senso. La parola senso in tutte le lingue, dice francese, italiano, eccetera, eccetera, ha questo doppio senso, che è quello di finalità, qualcosa verso cui si tende, e di significazione, significato. Ecco, se si è sempre detto che non c'è senso senza senso, cioè non c'è significato senza direzione, e quindi ecco il senso del progettare, e questa è una categoria moderna, dice lui la freccia del tempo, no? Il tempo va verso qualcosa. Ecco, la sua ipotesi è che ci sia senso anche senza il senso del progetto. E quindi per comprendere il va e viene tra residui e derivazioni, proprio c'è questa necessità di ritornare alla sorgente del senso inteso come significato, che fonda, ecco, la sorgente. E quindi ci sono oggi, secondo me stesso, una serie di pratiche che possono essere ricollegate proprio a questa, a questo senso inteso come sorgente, come matrice, e quindi che vanno oltre la dicotomia tra i due significati della parola senso. Parla di, propone questo, questa espressione materialismo mistico. Oppure il secondo
corporeismo spirituale.
Corporeità spirituale.
Corporeità non è nemmeno esatto, è corporismo, che non esiste in italiano, spirituale.
Corpismo.
In questo senso intende la costellazione aleteiologica.
Alors, donc du coup, on n'est plus, dans le fond, dans ce qui a été la grande marque moderne de tous les grands systèmes de pensée moderne, c'est, pourrait-on dire, une sorte de pessimisme ontologique, c'est-à-dire dire non à la vie, fondamentalement. L'esprit qui toujours dit non. On ne va pas reciter Goethe, mais enfin, on a là une expression qui traduit ce pessimisme ontologique. Et je crois qu'il y a, curieusement, chez Vilfredo Pareto, un optimisme ontologique. Hein, c'est-à-dire, dans le fond, qui va être, si je le dis en termes simples, et l'expression que j'emploie est très simple, hein, celle du New Age contemporain, un laisser-être, à partir justement de ce rapport dialogique entre le résidu et la dérivation. Pour moi, l'expression la plus simple, ça a été c'est la définition. La seule définition que j'ai proposée pour comprendre cette époque en gestation qu'est la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, démultiplication des effets, archaïque, ce qui est fondamental, arché, ce qui est premier, et qu'on a là cette synergie entre cet arché et ce développement technologique, les tribus et Internet, pour dire. Et on a, bien évidemment, une manière métaphorique ici de traduire cette dialogie que je dis depuis tout à l'heure entre le résidu et la dérivation.
Si può dire che la marca della modernità, la marca moderna, sia stato un pessimismo ontologico. Quello che, anche un po' ricordando Goethe, questo dire no alla vita. Ecco, curiosamente in Pareto ritroviamo invece, io propongo di parlare di ottimismo ontologico. E utilizzo un'espressione abbastanza semplice del New Age contemporaneo, lasciar essere, il lasciar essere. Ecco, in questo senso si può comprendere il rapporto dialogico tra residui e derivazioni. E possiamo capire in che senso parlo di postmodernità. Si tratta di una sinergia tra l'arcaico e lo sviluppo tecnologico. Una sinergia, una moltiplicazione di aspetti che hanno a che fare con l'archè, l'inizio, ciò che è prima, e lo sviluppo tecnologico, e quindi contemporaneo. In questo senso parlo di tribù, di internet, eccetera, eccetera. E si può comprendere la dialogica residui-derivazione.
Voilà, alors je ne vais pas vous ennuyer davantage, mais si vous voulez, dans cette synergie, trois points très rapides, c'est cela qui peut permettre de comprendre le tournant politique. C'est-à-dire qu'on n'est plus, dans le fond, dans une conception politique rationnelle, prédictible, prévisionnelle. Et que, encore une fois, je ne sais pas quel est le débat en Italie, mais en France, il y a une vraie implosion du politique. Implosion. Gauche et droite confondues, il n'y a plus d'adhésion, véritablement, hein, puisqu'il n'y a plus de représentation philosophique, donc il n'y a plus de représentation politique. Le mécanisme d'abstention est là important. Voilà, pour moi, le premier tournant politique qui fait qu'on voit ressurgir une multiplicité de rébellions, de révoltes, qui ne sont plus programmatiques. Indignados, parti pirate à Berlin, etc. etc. Hein, vous voyez, quelque chose qui met l'accent non plus sur le simple rationnel, mais sur l'émotionnel. Voilà le premier tournant.
Ok. Non vado a andare di oltre. Insomma, gli ultimi tre punti che hanno a che fare con questa sinergia di cui parlo. Dunque, il primo punto riguarda la svolta politica che stiamo vivendo, che non è una politica che non è più razionale, non è più predittiva e non è più previsionale. Cioè, non so com'è da voi in Italia, ma in Francia c'è proprio un'implosione del politico. La destra e la sinistra sono confuse, non c'è più rappresentazione politica, l'astensionismo è dilagante, e assistiamo piuttosto a una serie di ribellioni, di rivolte, tipo gli Indignados, il partito dei pirati,
in Islanda.
No, a Berlin.
A Berlino, ce l'abbiamo anche noi i pirati.
Forse.
Noi non abbiamo.
A Berlino, che è dell'ordine, non del razionale, ma dell'emozionale.
Le deuxième tournant, je dis tournant, hein.
Tournant.
Un peu dans le sens heideggerien, hein, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus simplement le grand linéarisme progressiste.
Hein, donc, hein,
quand je dis tournant, c'est un peu le... C'est plus ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire la dialectique hegelienne, Aufhebung, le dépassement. Mais cette idée qu'on va retrouver heideggerienne, qui est la Verwindung. Il y a un philosophe italien qui est Gianni Vattimo, qui a justement montré que ce Verwindung, c'était la reprise, la distorsion et la guérison. Alors quand je dis tournant, je prends ces trois connotations de ce terme allemand. Hein, c'est-à-dire qu'on reprend des choses, hein, on le tord, et puis ça assure une manière d'être, un mieux-être. J'ose pas dire un bien-être, mais en tout cas un mieux-être. Hein. Alors mon deuxième tour, traduisez cette idée de tournant, hein, parce que on est habitué en général, que l'on en soit ou pas conscient, à cette espèce de linéarisme hegelien, hein, le grand mythe du progrès. L'idée du tournant, c'est un peu si... On ne peut pas traduire en français cette idée de vie corsi e ricorsi. Hein, c'est-à-dire voir revenir... Voilà, un truc comme ça qui va revenir de manière pendulaire. Et ça, c'est ça l'idée de tournant.
Vorrei mettere l'attenzione su questa idea di tornante che sto utilizzando, no? Che si riferisce piuttosto a Heidegger più che all'idea di linearismo in Hegel. Perché noi siamo abituati invece a pensarla così. Ecco, non si tratta di una dialettica e di un superamento ma piuttosto di una ripresa e attraverso un processo di distorsione e guarigione. Ecco, riprendiamo delle cose in qualche modo del passato per non per stare bene, ma per stare meglio. E, quindi attenzione al mito del progresso del quale siamo, a quale siamo abituati a pensare, invece piuttosto possiamo ecco, riferirci a quello che in italiano poi dico chiamava corsi e ricorsi della storia.
Voilà, alors mon deuxième tournant, ben c'est un tournant, puisque j'ai employé le mot tout à l'heure, un tournant sociétal. Voilà. Et c'est là où, où il y a, encore une fois, je maintiens curieusement, hein, je dis bien curieusement, la pertinence de cet apport de Vilfredo Pareto. Vraiment paradoxal. Mais ce tournant sociétal, bon ben voilà, c'est-à-dire comment, d'une certaine manière, on va avoir une multiplication, dans le fond, de ces résidus qui pourraient être, alors disons le mot, les multiples formes de communication émotionnelle, sportive, musicale, religieuse, consommatoire. On pourrait en trouver des quantités, si vous voulez. On a là typiquement quelque chose. Alors, si je le dis au travers d'un terme paradoxalement un peu curieux, c'est ce que Durkheim va appeler des rites piaculaires, c'est-à-dire des rites de pleurs, de joie, de tristesse. Et là, on a là quelque chose qui fait revenir, encore une fois, d'une manière profonde, hein, ces vieux archétypes, hein, ces vieilles attitudes comme cela résiduelles, le buzz, la rumeur, les contaminations, l'épidémiologie, la viralité de la cyberculture, s'inscrivent très précisément dans ce retour curieux, encore une fois, des résidus.
In questo senso parlo di, come ho detto prima, tornante societale. Curiosamente ritrovo la pertinenza di Pareto, in un senso anche un po' paradossale. Si tratta di una moltiplicazione della comunicazione emozionale, e lo vediamo nello sport, nella musica, nella religione, nel consumo. Potremmo usare in termini paradossali l'espressione di Durkheim riti piaculari, dove il pianto, nel pianto c'è gioia e tristezza. Si tratta del ritorno di vecchi archetipi, e lo vediamo nei Pettegolez, lui cita i Pettegolez l'Hermone, no? Sì, insomma, le dicerie, l'epidemiologia, la viralità nella cybercultura, sì, epidemiologia. Si tratta di ritorno, ecco, proprio il ritorno di vecchi archetipi.
Voilà, le dernier tournant, et puis je m'arrête là-dessus, qui pourrait être, donc vous avez compris ce que j'essaie de dire, dans le sens simple du terme, une expression de cette dialogie, de ce rapport de terme à terme. Je dis expression, un peu comme je vais exprimer le jus d'une orange, hein, c'est la catharsis aristotélicienne, il faut que ça sorte. Et la troisième expression, ce troisième tournant, c'est celui de la socialité. C'est-à-dire voir en particulier, parce que c'est important de ce point de vue, les phénomènes multiples de la culture juvénile qui mettent l'accent sur le sensible, sur... Et c'est là, ce mot est curieux pour moi, cette idée d'intensité des relations. En latin, intendere, ce n'est plus quelque chose qui va être tendu vers le lointain, la société parfaite, ce qui est à venir, mais l'intensité, hein, c'est une énergie qui est tendue dans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, ça, hein? C'est plus le progrès, c'est ingré. Alors, vous avez ingré, mais je crois que ça veut dire autre chose. Hein? Mais dans le sens étymologique du terme, c'est ingré, c'est ingré. Hein? C'est-à-dire quelque chose qui, dans le fond, renvoie de l'énergie, non pas projective, encore une fois, mais bien évidemment à cette intensité. Le mot intensité serait l'élément le plus, le terme le plus intéressant pour traduire. encore une fois, ce qui est en jeu dans ce tournant de la socialité.
Ecco, l'espressione per comprendere questa dialogica è proprio nel senso di, proprio di, a un certo punto rimanda al succo d'arancia, cioè di spremitura, la catarsi aristotelica. Ecco, attraverso tutte queste idee possiamo comprendere quello che c'è in gioco nella socialità moderna, scusate, postmoderna. Nei fenomeni multipli, nei molteplici fenomeni dei giovani, il ritorno al sensibile, alla intensità delle relazioni. Intendere, proprio nella radice etimologica, contrapposto quindi al tendere verso qualcosa, quindi l'idea del progetto, diciamo il proiettare in avanti, ma lontano. Ma intensità nel senso di qualcosa che è teso dentro, ecco, all'interno, quindi fa la differenza tra progresso e ingresso, che ovviamente non ha questo stesso significato in italiano, però comunque a livello di etimologia lo possiamo capire. Un'energia che non è proiettata in avanti ma dentro. L'intensità è il termine più adatto per esprimere questo.
Voilà en quoi pourrait être, dans le fond, pour le dire simplement, la puissance de l'initial. Hein? Et il y a dans cette, je dis bien, puissance de l'initial, qui dans le fond, et c'est en ce sens que on court-circuite ces deux schémas un peu simples, simplistes, simplés, du progressisme et du réactionnaire. Mm-hmm. Hein? Et donc, c'est-à-dire que la puissance de l'initial, si je le dis en termes imagés, ce n'est plus la flèche du temps progressiste, ce n'est plus le cercle réactionnaire, et la dialogie parétienne serait la spirale. Voilà. Hein, l'idée de la spirale, c'est dans le fond voir revenir quelque chose avec, moi j'ai dit enracinement dynamique, mais dans le fond quelque chose qui montre qu'il y a là une vraie puissance qui peut permettre de comprendre ces résidus intemporels, j'ai dit tout à l'heure, rêves, pensées, fantasmes, etc., et qu'on a là, justement, à partir de cette idée-là, quelque chose qui peut permettre de comprendre le vitalisme contemporain. Et qu'il y a, j'ai bien dit, dire oui à la vie, dans cette dialogie, qui est une dialogie, cette dialogie par Étienne, hein, qui est, j'ai dit tout à l'heure, peu importe le mot, hein, un optimisme ontologique, peu importe le mot. Ce qui est certain, c'est qu'il y a là une expression de ce vitalisme qui me paraît très fort et qui est au cœur même, à mon sens, de la spirale. Voilà, je vais arrêter là-dessus.
Allora, si tratta di una potenza dell'iniziale, di ciò che sta proprio alla sorgente. In fondo si tratta di un cortocircuito tra questo schema semplice, semplicistico, semplificato, della dicotomia progressista-reazionario. Ecco, al di là, per esempio, della freccia del tempo, no? Come metafora, per usare dei termini metaforici, la freccia del tempo che è di ordine, diciamo, progressista, il circolo, cerchio, che è di ordine reazionario, la dialogica paretana può essere rappresentata metaforicamente con la spirale. La spirale. Si tratta di quello che altrove ha chiamato radicamento dinamico. E i residui possono, residui paretiani possono essere interpretati secondo questa linea di comprensione. Anzi, no, niente, non linea.
Questa spirale di comprensione.
Questa spirale comprendente. Ecco, possiamo usare, ecco, l'ottimismo ontologico, vitalismo, questo dire sì alla vita, poco importa, insomma, come accettiamo. Quello che voglio dire è che c'è un ritorno, anzi, c'è un forte vitalismo nella idea, nel cuore del spirale, del simbolo, dell'archetipo.
Je vais dire encore un mot quand même.
Encore une parole.
J'ai commencé par cela tout à l'heure. Hein, il faut penser avec rigueur, hein, j'insiste sur cette idée de rigueur, penser avec rigueur ce qui est voilà mon expression, la sortie paradoxale du rationalisme. Paradoxale. J'ai pas dit la rationalité hein, du rationalisme, sortie paradoxale, premièrement. Et deuxièmement, la dialogie par Étienne nous permet en quelque sorte de voir qu'il y a, là au niveau quotidien, une coprésence d'époques différentes. Coprésence. Hein, fond, on voit bien revenir des éléments qu'on avait cru dépasser. Et il est un mot, une expression, ce qu'on pourrait appeler, au-delà du simple progressisme moderne, ce qui est pour moi important, une philosophie progressive. Ce n'est pas le progressisme. La philosophie progressive est cette coprésence que j'ai dite il y a un instant, ou ce que pour ma part j'ai appelé la raison sensible, la figure rhétorique par excellence qui résumerait tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure et qui est à mon avis une figure rhétorique importante, c'est l'idée de l'oxymore, c'est-à-dire « et », non pas « ou bien », ce à quoi on était habitué, mais au contraire ce « et ». Et il y a dans cet oxymore ce rapport qui existe entre la dérivation et les résidus.
Voglio dire un'ultima parola, iniziamo proprio da questo pensiero, cioè necessità di rigore, ecco, di rigore nei nostri processi di pensiero. Cioè, questa, ci troviamo nella paradossale conseguenza uscita, l'uscita del razionalismo, ecco, non della razionalità, ma proprio del razionalismo paradossale. La dialogica paretiana che c'è all'opera nel quotidiano riguarda proprio questa condizione di compresenza di elementi di diverse epoche. C'è un ritorno di elementi, per esempio, che credevamo superati. E quindi propongo al posto del progressismo moderno la filosofia progressiva, quindi non progressista, progressiva, che dà conto di questa copresenza di elementi di diverse epoche. A mio tempo avevo proposto l'espressione ragione sensibile. La figura retorica che meglio dà conto di questo è l'ossimoro. Ossimoro che rimanda alla e. Noi siamo abituati a pensare a o, quindi et, est, out. Ecco, questa logica dell'e e questa metafora ossimorica dà conto del rapporto residui-derivazione.
Voilà, je vous remercie.
Grazie.